les eaux Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport avec Philippe Quentin.
On est en vacances, c'est le temps de se lever tard, mais j'ai l'impression que demain, les amateurs de golf vont se lever très tôt parce que c'est l'Omnium britannique, puis on peut écouter ça tranquillement en prenant un café, en déjeunant, en prenant nos croissants, nos œufs, notre bacon. C'est un des plus beaux tournois de l'année. Les images sont magnifiques. La compétition est extraordinaire. Et aujourd'hui, eh bien, c'était la deuxième journée et on a appris à la fin de cette journée que deux grosses pointures du golf, Tiger Woods et Rory McIlroy, ne se sont pas qualifiés pour les deux dernières rondes. Alors ça, c'est quand même peut-être pas tellement étonnant dans le cas de Woods, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes de santé et qu'il n'était pas très à l'aise depuis son arrivée au Royal Portrush. Le vent, la pluie, le froid, tout ça, c'était pas dans son élément. Il n'était pas dans son élément, ça a été très dur. Mais par contre, pour Rory McIlroy, ça c'est vraiment étonnant, parce que McIlroy, c'est le terrain de son enfance. C'est là qu'il a appris à jouer au golf. C'est là qu'il se sent bien. Et dès son premier coup de départ jeudi, c'est là que son tournoi à toutes fins utiles s'est terminé. Il était nerveux, il a entendu la foule l'applaudir, il était très excité. Et là, son coup de départ avec un fer sur une normale 4, il l'a poussé à gauche, la balle a roulé hors limite, il a essayé de se rattraper sur son deuxième coup de départ. Finalement, il a envoyé la balle dans l'herbe longue à gauche du vert. Bref, une suite, une cascade de malheurs. Comme pour les golfeurs amateurs qui ont des ennuis, il a terminé avec un 8 et il n'a jamais été capable de se remettre de ça. Alors, quand on regarde aujourd'hui la liste des golfeurs, on s'aperçoit que J.B. Holmes, l'Américain, est en première place, à égalité avec l'Irlandais Shane Lowry. Alors, les deux sont à moins 8. Tommy Fleetwood, lui, est à moins 7, donc il est certainement parmi les prétendants. Il y a d'autres golfeurs qui sont là également, mais moi, je surveille surtout Brooks Koepka qui domine la scène du golf depuis deux ans maintenant. Il est à moins 5 à trois coups des meneurs, alors il sera extrêmement dangereux. Alors, pour parler de tout ça, je rejoins mon ami Dave Lévesque. Alors, salut, pro Château Bromont, bien sûr. Faut établir d'abord le autorité de compétence. Salut, Dave.
Allô, Philippe.
Dave, comment t'as vu cette deuxième journée? Est-ce que t'as eu des surprises, toi?
Est-ce que j'ai eu des surprises? Pas vraiment, honnêtement. Je suis un peu surpris de voir J.B. Holmes encore en tête. Shane Lowry aussi, qui est le local. Mais c'est des gars qui vont, d'après moi, continuer à bien performer demain, parce que les conditions sont pas vraiment différentes de ce qu'on a vu les deux derniers jours. Et puis, autre que ça, là, c'est McIlroy nous a donné un beau spectacle aujourd'hui.
Un peu tard.
Ouais, un peu tard, c'est ça. Mais je pense pour la foule, ouais. De la façon qu'il a joué aujourd'hui, il était beaucoup plus confortable. Puis, je pense qu'il a fait une couple d'erreurs d'agressivité aujourd'hui. Il voulait tellement réussir un bon pointage pour avoir une chance de faire la coupure qu'il
Dave.
A fait une coupure.
Dave, oui. Je veux dire quelque chose à propos de McIlroy. Dis-moi si tu es d'accord ou non. Mais moi, McIlroy, je trouve qu'il manque un peu d'ambition pour un gars de son talent. Je dois avouer que je commence à être un peu tanné de l'entendre dire « Ah, si je ne gagne pas un majeur cette année, je pourrais en gagner l'an prochain. Si je ne gagne pas de majeur, ça ne change rien à ma vie. Je continue à vivre ma vie. » Je comprends, là, c'est bien de placer son sport en perspective. C'est pas la fin du monde. Mais il me semble que pour être le meilleur au monde puis gagner des tournois majeurs, il faut que tu aies faim. Il faut que tu aies le goût de gagner. Il me semble qu'on n'aurait jamais entendu un Jack Nicklaus ou un Arnold Palmer dire ça. Ah, ben écoutez, si je gagne pas cette année, ça ira mieux l'an prochain. Moi, ça vient que ça m'agace, puis je trouve que ça se reflète sur son jeu.
Oui, je pense que tu as raison. Honnêtement, c'est un bon point que tu amènes, Philippe. C'est que c'est une ligne dure à suivre, à savoir de quelle façon tu ajustes tes attentes puis tes motivations. Est-ce que le McIlroy, il la joue un petit peu plus relax ou ce que. Il se met pas trop de pression, puis il dit, regarde, on va laisser les choses arriver, je vais me donner des chances, je vais bien me préparer, mais au bout de la ligne, si ça fonctionne pas, je suis quand même heureux, je fais une belle vie, j'ai beaucoup d'argent, et puis ça dépend un petit peu, c'est quoi tes motivations. J'ai toujours adoré suivre Tiger Woods, parce que je suis de la même génération, parce que Tiger Woods n'a jamais été motivé par l'argent, il a été motivé par les records, par le livre de statistiques,
voilà.
À accomplir des choses qui sont brisées, battre ceux qui ont été devant lui dans les générations avant. Et puis, certains joueurs, ça dépend c'est quoi ta motivation dans la vie. Je pense que c'est c'est une analyse introspective où je pense que les joueurs faut qu'il y ait. Puis lui, c'est de la façon qu'il l'aborde. Je sais qu'il y a une grosse équipe autour de lui, McIlroy, qui le suit, autant psychologue, côté physique. C'est l'approche qu'il préconise présentement, mais c'est ça. Je pense que tu as un peu raison. Où il manque un petit peu de l'aspect bulldog où ce que quand le morceau, tu l'as dans la bouche, ben, tu le lâches pas, puis il n'y a rien qui va te le faire lâcher. McIlroy a souvent tendance à dire, ben, c'est pas celle-là, puis un petit abandon, puis voir, c'est pas grave, puis ça ira ouais. L'année prochaine, puis c'est ça.
C'est ça. Alors là, tu regardes la liste des prétendants au titre. Est-ce que tu vois un gars comme J.B. Holmes, qui est premier, Shane Lowry, qui est co-meneur, est-ce que tu vois un de ces deux-là gagner, ou tu vois plutôt le gagnant dans la liste des prétendants, dans le peloton qui suit, et dans lequel il y a des gros noms? Il y a Dustin Johnson, il y a Brooks Koepka, bien sûr. Il y a même Jordan Spieth, qui est en train de faire une remontée, là.
Exact. Là, ce qu'il faut voir, c'est que le leaderboard présentement est assez compacté au niveau du sommet. Là, c'est que tu as beaucoup de joueurs. Je pense que tu remontes à peu près jusqu'au top 30 qui ont encore, selon moi, une véritable chance de gagner le tournoi. Donc demain, ça va être la journée où je vais dire la plus belle journée conditions météorologiques demain, où ce qu'il n'y aura pas beaucoup de vent. Ça va être ensoleillé. Annonce pas de pluie demain. Puis le terrain n'a pas beaucoup séché aujourd'hui. Donc le terrain va être encore réceptif. Ceux qui vont jouer le matin vont avoir une bonne chance, un petit peu moins de vent le matin, vont avoir une bonne chance de faire un bon pointage, de se rapprocher des leaders, puis même des dépassés. Donc, ça va ramener beaucoup de monde dans le mix. J.B. Holmes, c'est pas sa meilleure. Il a gagné à Riviera plus tôt cette année, mais depuis Riviera, il joue pas son meilleur golf. C'est un petit peu une surprise de le voir présentement. Puis Shane Lowry, c'est un peu la même chose. C'est pas sa meilleure saison de golf. Personne ne l'avait vu vraiment dans leur boule de cristal là, pour être au sommet après deux rondes. Donc, c'est des gars qui peuvent être demain, là, ça peut passer ou casser dans le sens de est-ce qu'ils vont continuer à maintenir une avance ou bien un peu s'écrouler et laisser ceux qui les poursuivent les rattraper. J'ai hâte de voir demain. J.B. Holmes est reconnu pour être une tortue sur le parcours de golf lorsqu'il est en position de gagner. À Riviera, il s'est fait critiquer vertement par les autres joueurs, par les médias, sur les médias sociaux, pour être terriblement lent à se préparer pour ses coups, pour jouer ses coups. Est-ce qu'il va nous offrir le même jeu demain? Puis
là, au moins, il ne retardera personne.
Oui, il retardera. Mais là, ils sont en tout somme demain. Ben Shane Lowry, c'est un des plus rapides sur le tour. Donc, tu vas avoir une tortue avec un lièvre. De quelle façon ça va jouer un peu le petit combat psychologique entre les deux meneurs, à savoir est-ce que JB va faire exprès un petit peu pour ralentir sa routine, pour niaiser un petit peu Shane Lowry. Demain, là, ça peut jouer, ça peut faire un mauvais résultat entre les deux, où est-ce que les deux vont sortir flat un petit peu, puis ça va permettre aux autres en arrière de revenir.
Tu penses qu'ils peuvent se coltailler de cette façon-là sur l'aspect psychologique, se servir de leur cadence de jeu respectif pour embêter l'adversaire sciemment?
Oui, ça fait partie un peu de la game. Là. Plus t'approches le dimanche, plus t'approches la dernière ronde, les joueurs, sans faire les anciens trucs là, de brasser ton change dans ta poche ou essayer de bouger pendant que l'autre frappe son coup, d'imposer ton tempo à l'autre. Peut faire partie de ta stratégie. C'est sûr que J.B. Holmes sait pertinemment que Shane Lowry est un joueur hyper rapide. Ça va faire partie de la game demain de J.B. Holmes, de ralentir la cadence et puis de jouer ce petit jeu-là. Mais comme tu demandais, là, je continue de penser que Brooks Koepka est super bien positionné. Encore aujourd'hui, il n'y a pas eu une super belle ronde, mais il y a beaucoup de... Son cadet, Ricky Elliott, c'est un gars local là-bas à Port Rush. Il n'y a pas un cadet sur le tour qui connaît mieux le terrain que le cadet de Brooks Koepka. Donc, c'est un gros avantage pour lui. Là, tout ce qu'il faut pour les joueurs à peu près dans le sommet du classement, c'est de se tenir à la fin de la ronde de demain, de se tenir à 4 ou 5 coups maximum du meneur. C'est l'objectif de la plupart des joueurs. Soit de se rapprocher ou de se maintenir là, à 4-5 coups, parce que dimanche va être la mauvaise journée, conditions météo, la mauvaise journée. Donc, de la pluie, des vents beaucoup plus élevés au niveau de 20-30 km/h dimanche. Donc, dimanche, là, ça va être le vrai test de golf. Demain, il faut se tenir dans la parade pour se préparer pour dimanche.
Bon, alors, ça va être très dur pour les joueurs dimanche, mais quel spectacle ça va donner à la télévision? Parce que quand on voit ces joueurs-là dans la pluie, le froid, le vent, c'est toujours assez spectaculaire. Dave Lévesque, merci beaucoup d'avoir été là.
Ça fait plaisir, Philippe.
OK, on se reparle, puis bon golf. Je signale à tout le monde, d'ailleurs, que les meilleurs joueurs demain, les meneurs, heure de Montréal, heure du Québec, c'est entre environ 10 et 11 heures le matin là, qu'ils donnent leur premier coup de départ. Alors, si vous êtes devant votre écran de télé vers 10 heures, vous ne manquerez rien d'important. Eh bien, il n'y a pas seulement les Alouettes qui disputent un gros match ce week-end. Il y a également l'Impact. La rencontre sera diffusée également sur l'ensemble du réseau Cogeco demain soir, tout de suite après la rencontre des Alouettes. L'Impact qui joue à Columbus contre le Crew. Et je vais en parler avec Jérémy Filosa. Salut, Jérémy.
Salut, Philippe.
Hey, Jérémy, avant de parler de l'Impact, est-ce que tu as vu ce commentaire de Zlatan Ibrahimovic?
Non, alors, j'ai Zlatan, pas vu. Aujourd'hui, ça,
oui, alors Zlatan Ibrahimovic, dans une entrevue à ESPN, une longue entrevue, un long papier sur le site d'ESPN, il parle de toutes sortes de choses, c'est super intéressant, mais il dit, écoutez, Major League Soccer, il dit, moi, là, il dit, le niveau, c'est vraiment pas le niveau de l'Europe, et moi, j'ai l'impression, souvent, d'être une Ferrari, et les autres joueurs, ce sont des Fiat. C'est un commentaire quand même. Bon, on notera le manque de diplomatie, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, c'est assez dur.
Ben oui, ben Zlatan, c'est Zlatan. Hein? Il dit ce qu'il pense et puis il ne se gêne jamais. Mais écoute, quand tu vois Zlatan arriver ici, puis il est arrivé suite à quand même une blessure importante au genou, et on s'est dit, est-ce que Zlatan va pouvoir continuer d'être dominant? Et là, il arrive ici, puis c'est des feux d'artifice. Wayne Rooney, c'est un peu la même chose. Hein? Il a quitté l'Europe, on s'est dit, ah, il est rendu vieux, puis tout ça, il est usé, il est magané. Encore là, il arrive ici, puis il est une coche en haut de tout le monde, les gars arrivent encore, c'est ces deux joueurs étoiles-là, en mettre,
plein les yeux.
Plein la vue. Et donc, c'est sûr que là, ça fait en sorte qu'on se dit, bon, ben, Wayne Rooney, probablement que dans une première ligue anglaise, il n'est peut-être pas partant. Là, il arrive ici, puis c'est un des joueurs étoiles de la ligue. Ben, ça nous démontre à quel point il y a encore du travail à faire, ça, c'est certain. Soit dit en passant, si ça vous tente ce soir, là, El Trafico, hein, LA Galaxy contre LAFC ce soir à 22h. J'adore le nom qu'on a donné à cette rivalité,
oui, là, El Trafico. Ben, parce qu'à Los Angeles, évidemment, on passe du temps sur les. On appelle ça des voies rapides, mais ça va pas vite.
Non, c'est ça. Donc, je crois que c'est 27 kilomètres entre les deux stades. Donc, écoutez, c'est une rivalité. C'est la meilleure rivalité de la MLS. Donc, ce soir à 22h, je crois que ça...
OK. Jérémy, t'es toujours là? Oups.
Oui.
Ah, OK, parfait. Il y a eu une petite fréquence qui m'a inquiété un instant. Là. Jérémy, l'Impact demain contre Columbus, comment tu vois ce match-là?
Écoute, c'est un des matchs depuis le début de l'année où j'ai vraiment de la misère à me faire une idée. Parce que même si Rémi Garde a dit cette semaine, non, j'ai pas passé des messages dans le dernier match. En même temps, il dit, j'espère que les gars ont saisi et que justement, il y aura une réaction. Donc clairement, on voulait passer certains messages. Écoute, on est passé d'une formation à 5 défenseurs qui a eu quand même pas mal de succès, surtout pendant le temps qu'on avait tellement d'absents à cause des départs avec l'équipe nationale. Bon, là, dans les derniers jours, ça n'avait pas bien fonctionné. Fait qu'on est revenu au fameux système 4-3-3 qui n'a pas fonctionné non plus contre Toronto. Et là, je me gratte la tête puis je me dis, on s'en va où à partir de maintenant? Surtout le fait que Samuel Piet n'est pas là. Ouais. C'est ton milieu de terrain défensif qui joue dans l'axe. Donc, est-ce qu'on le remplace par un joueur? Malheureusement, il n'y a personne dans la formation de l'Impact de Montréal qui est capable de jouer ce rôle-là comme Samuel. Donc, je pense qu'on va y aller avec deux défenseurs défensifs. Donc, est-ce qu'on pourrait, dans un monde rêvé, jouer un système qui a 2-3-1 dont plusieurs demandent depuis longtemps, sauf qu'on n'a pas de numéro 10, on n'a pas de milieu de terrain offensif.
Et ça
donc,
c'est peu probable. Ça rend ça plus difficile, mais il va falloir vraiment que l'Impact retrouve le sentier de la victoire parce que sans ça, ça va continuer de faire un peu mal au moral. Jérémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis demain, bien sûr, il y a la retransmission de ce match en soirée de l'Impact à Columbus. Au retour, Martin Laurendeau est avec nous. Hier, Louis Borfuga nous a dit que Denis Shapovalov a commis une erreur en laissant aller Martin Laurendeau comme entraîneur. Aujourd'hui, l'idée est simple, demander à Martin Laurendeau qu'est-ce qu'il en pense. C'est assez intéressant ce qu'il nous dit à propos de Denis Shapovalov, également à propos de Félix Auger-Aliassime, tout de suite après les nouvelles de 19h.